Madame Darling eut vent de Peter pour la première fois, alors qu'elle était occupée à mettre de l'ordre dans l'esprit de ses enfants. C'est une habitude nocturne de toute bonne mère de fouiller dans l'esprit de ses enfants dès qu'ils sont endormis et de remettre toutes choses d'aplomb pour le lendemain, rangeant à leur place les nombreux objets égarés dans la journée. Si vous pouviez rester éveillé, mais c'est impossible bien sûr, vous verriez comment s'y prend votre maman et trouveriez très intéressant de l'observer à ce moment. C'est exactement comme fouiller dans des tiroirs. Vous la surprendriez à genoux, je pense, se demandant perplexe « Où diable vous avez bien pu dénicher ce machin ?» faisant des découvertes agréables et d'autres qui le sont moins, pressant cette chose contre sa joue comme si c'était aussi doux qu'un petit chat et faisant vivement disparaître cet autre de la vue. Quand le matin vous rouvrez les yeux, votre méchanceté et les passions mauvaises qui vous accompagnèrent au lit, vous les retrouvez pliées en une pile serrée et repoussées tout au fond de votre conscience. Par-dessus sont rangées vos plus jolies pensées, attendant que vous les enfiliez. Je ne sais s'il vous est arrivé de voir la carte géographique de l'esprit d'une personne. Les docteurs dessinent parfois un schéma d'autres parties de votre corps, et ces croquis suscitent le plus vif intérêt. Mais surprenez-les donc tandis qu'ils s'ingénient à dresser le plan d'un esprit d'enfant, territoire non seulement embrouillé, mais qui n'arrête pas un instant de bouger. Des lignes en zigzag apparaissent, tout comme sur une feuille de température. Ce sont probablement les routes qui sillonnent l'île, car le pays de l'imaginaire est toujours plus ou moins une île avec ici et là d'étonnantes taches de couleurs, des récifs de corail et au large de fins voiliers corsaires. Et encore des repères sauvages, des nains, tailleurs pour la plupart, des grottes où coule une rivière, des princes Benjamin de sept frères, une hutte prête à s'effondrer et une toute petite vieille au nez crochu. S'il n'y avait que cela, le plan serait facile à tracer. Mais on y trouve aussi le premier jour à l'école, la religion, les prêtres, le bassin rond, les travaux d'aiguilles, des meurtres, des pendaisons, les verbes qui gouvernent le datif, le jour du flan au chocolat, les premières bretelles, dites 33, 3 sous pour arracher votre dent vous-même, et ainsi de suite. Et comme ces choses font tantôt partie de l'île, tantôt d'une autre carte qu'on voit par transparence, on ne s'y retrouve plus du tout. D'autant que cela remue tout le temps. Évidemment, le pays de l'imaginaire diffère beaucoup d'une personne à l'autre. Celui de John, par exemple, possède une lagune où sont volants des flamants roses que John tire à la carabine. Alors que Michael, qui est encore petit, a un flamant rose, a un bateau échoué dans les sables, la quille en l'air, Michael dans un wigwam et Wendy dans une hutte de feuilles habilement cousues ensemble. John n'a pas d'amis. Michael reçoit les siens la nuit. Wendy chouchoute un louveteau abandonné par ses parents. Mais dans l'ensemble, les contrées de l'imaginaire ont tout un air de famille. Et si elles voulaient bien se tenir en rang devant vous, vous diriez qu'elles ont toutes le même nez, la même bouche, etc. C'est toujours sur ces rivages magiques que les enfants viennent échouer leurs canots. Nous aussi, nous y sommes allés. Et bien que nous n'y aborderons jamais plus, nous avons encore dans l'oreille le chant des vagues. De toutes les citères, l'île de l'imaginaire est la mieux abritée et la plus dense, pas du genre qui s'étire en longueur avec d'ennuyeuses distances d'une aventure à l'autre, mais pleine comme un œuf. Le jour, quand on y joue, avec la nappe et les chaises, elle n'a rien d'effrayant. Mais 2 minutes avant de s'endormir, elle devient presque vraie. C'est pourquoi l'on a inventé les veilleuses. Au cours de ses voyages, à travers l'esprit de ses enfants, il arrivait à Madame Darling de tomber sur des choses incompréhensibles pour elle. Entre autres, et par-dessus tout, le mot « Peter ». Elle ne connaissait aucun Peter. Et pourtant, il apparaissait, ça et là, dans la tête de John et de Michael, tandis que Wendy était toute gribouillée de son nom, écrit en gros caractères effrontés. Lorsque Madame Darling le déchiffrait, elle lui trouvait l'air joliment sûr de lui. « Oui, il est plutôt sûr de lui », admit Wendy à regret, comme sa mère la questionnait à son sujet. « Mais qui est-ce, mon chou ?»« C'est Peter Pan, maman, tu sais bien. » Sur le coup, Madame Darling ne sut pas du tout. Mais en remontant dans son enfance, elle se souvient d'un Peter Pan qui vivait, disait-on, chez les fées. On racontait d'étranges histoires à son propos. Ainsi, on prétendait que lorsque les enfants meurent, ils les accompagnent un bout de chemin pour qu'ils n'aient pas peur. Madame Darling y avait cru autrefois. Mais à présent qu'elle était mariée et raisonnable, elle avait peine à admettre qu'un être pareil pût exister. D'ailleurs, dit-elle à Wendy, Il aurait dû grandir depuis le temps. Non, non, il n'a pas grandi, assura Wendy d'un ton confidentiel. Il a tout juste ma taille. Aussi bien de corps que d'esprit, voulait-elle dire. Comment le savait-elle? Impossible de le dire. Elle le savait, un point c'est tout. Madame Darling consulta son mari, mais celui-ci sourit avec un « pfff » de mépris. « Écoute-moi bien, dit-il, c'est quelque idiotie que Nana leur aura fourré dans la tête, tout à fait le genre d'idée qui vient aux chiens. Laisse courir, ça leur passera. » Cela ne passa pas, pourtant. Au contraire, le turbulent garçon allait bientôt donner un choc sérieux à Madame Darling. Les enfants vivent les plus étranges aventures, sans en être aucunement troublés. Ainsi, une semaine après un tel événement, il leur prend l'envie de vous raconter comment, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, ils ont rencontré leur père mort et ont joué avec lui. Ce fut de manière accidentelle que Wendy fit un matin une révélation alarmante. On avait découvert sur le parquet de la chambre à coucher des feuilles mortes qui assurément ne s'y trouvaient pas lorsque les enfants étaient allés dormir. Madame Darling essayait de résoudre cette énigme quand Wendy expliqua avec un sourire indulgent « Je crois que c'est encore ce Peter. »« Que veux-tu dire, Wendy ?» « C'est vilain de sa part de ne pas balayer, soupira Wendy, qui était très soigneuse. » Peter venait parfois dans la chambre pendant la nuit, expliqua-t-elle mine de rien, et il lui jouait de la flûte assis au pied de son lit. Hélas, elle ne se réveillait jamais. Aussi lui était-il impossible de savoir comment elle le savait. Elle le savait, un point c'est tout. « Tu dis des sottises, mon trésor. Personne ne peut entrer dans la maison sans frapper. »« Je crois qu'il entre par la fenêtre. »« Ma chérie, voyons, au troisième étage ?» Les feuilles mortes ne se trouvaient-elles pas au pied de la fenêtre, maman? C'était vrai. C'est là qu'on les avait trouvées. Madame Darling se demandait ce qu'il fallait en penser. Tout cela semblait si naturel à Wendy qu'on ne pouvait classer l'affaire en prétendant qu'elle avait dû rêver. Mon enfant, s'écria Madame Darling, pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? J'ai oublié, dit Wendy avec insouciance. Du fait, elle avait hâte de prendre son petit déjeuner. Bon, Wendy avait dû rêver. Pourtant, ces feuilles étaient bien là. Madame Darling les examina attentivement. Ce n'étaient plus que des squelettes de feuilles, mais elle pouvait certifier qu'elles ne provenaient d'aucun arbre connu en Angleterre. Elle se mit à quatre pattes sur le plancher, scruta à la chandelle les empreintes d'un pied bizarre, explora la cheminée à l'aide du tisonnier, sonda les murs. Puis elle laissa se dérouler un ruban de la fenêtre jusqu'au trottoir. Cela représentait une dizaine de mètres, avec guère plus qu'une gouttière pour grimper jusqu'en haut. Plus de doute, Wendy avait rêvé. Eh bien non, elle n'avait pas rêvé, comme cela fut démontré précisément la nuit qui suivit et qui marqua le début des extraordinaires aventures des jeunes Darling. Cette nuit-là, donc, les enfants allèrent une fois de plus se coucher. C'était le jour de congé de Nana et Madame Darling les avait elle-même baignés, puis bercés jusqu'au moment où, l'un après l'autre, ils avaient lâché sa main pour glisser lentement vers le pays du sommeil. Ils avaient l'air si calmes, si paisibles, qu'elle sourit de ses propres frayeurs et s'assit tranquillement pour coudre auprès du foyer. C'était une chemise destinée à Michael, la première chemise de sa vie qu'il mettrait le jour de son anniversaire. La chaleur du feu était douce, la chambre faiblement éclairée par les veilleuses, et à présent la couture avait glissé sur les genoux de Madame Darling. Puis sa tête d'Odelina. Oh, fort gracieusement, elles étaient endormies. Regardez-les tous les quatre. Wendy et Michael de ce côté-ci, John de celui-là et Madame Darling près du feu. Il y aurait dû y avoir une quatrième veilleuse. Dans son sommeil, Madame Darling eut un rêve. Elle rêva que le pays de l'imaginaire s'était dangereusement rapproché et qu'un étrange garçon en était débarqué. Il ne l'effrayait pas. Elle l'avait déjà vu sur le visage des femmes qui n'ont pas d'enfants. Et peut-être le voit-on également sur le visage de certaines mères. Mais dans son rêve, il avait troué le voile qui cache la contrée de l'imaginaire. Et elle vit Wendy, John et Michael qui regardaient par ce trou. Jusque-là, pas de quoi fouetter un chat, mais tandis que le rêve se poursuivait, la fenêtre s'ouvrit violemment et un garçon sauta sur le plancher. Une étrange lumière, pas plus grosse que le poing, l'accompagnait et dansait follement dans l'air de la chambre comme si elle était vivante. À mon avis, ce fut elle qui réveilla Madame Darling. Elle poussa un cri, vit le garçon et je ne sais comment reconnut aussitôt Peter Pan. Si vous aviez été là, ou moi, ou Wendy, nous aurions vu qu'il ressemblait beaucoup au fameux baiser de Madame Darling. C'était un charmant petit gars, vêtu de feuilles et des résines qui suintent des arbres. Mais ce qu'il y avait de plus adorable en lui, c'était ses dents de lait qu'il avait au grand complet. S'apercevant qu'il avait affaire à une grande personne, Il lui adressa un grincement de ses 20 petites perles blanches.